Inclusivement Vôtre, c'est le podcast qui envisage la culture d'entreprise comme un pilier stratégique du développement des organisations, avec un prisme diversité, équité et inclusion. Je m'appelle Laura Driancourt et je suis l'hôte de ce podcast créé et produit par Projet Adelphité, l'agence de conseil et stratégie en diversité, équité et inclusion, qui propose une approche multidimensionnelle pour mettre ce sujet au cœur de la performance des organisations. Nous conseillons les entreprises pour construire une stratégie diversité, équité, inclusion avec un maximum d'impact et sans s'épuiser, que ce soit culture d'entreprise, audit, recrutement, évaluation, promotion, grille salariale ou encore sensibilisation. Nous proposons un accompagnement de A à Z. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inclusivement Vôtre. Bienvenue dans cette troisième mini-série de la saison 4 d'Inclusivement Vôtre. Pour les trois prochains épisodes, nous accueillons Louise Traguet, salariée au Pays de la Magie. Salariée chez Disney. Louise est analyste financière et elle a fait une première partie de sa carrière dans les grands cabinets de conseil. Un environnement dans lequel elle ne s'est jamais sentie assez en sécurité pour transitionner. Dans ce premier épisode, elle partage avec nous ce qu'elle a trouvé chez Disney qui lui a permis de se sentir prête à faire sa transition. Bonne écoute. Bonjour Louise.
Bonjour Laura.
Comment ça va?
Ça va très bien et toi?
Ça va très bien également, merci. Je suis ravie de t'accueillir dans cet épisode d'Inclusivement Vôtre. Et pour commencer, je te propose de te présenter ainsi que l'entreprise pour laquelle tu travailles.
Donc, je m'appelle Louise, j'ai 32 ans maintenant et je suis analyste financière pour Disneyland Paris. Et je suis aussi engagée dans le réseau d'employés qu'on appelle BERG, Business Employee Resource Group, Pride, pour tous les sujets de sensibilisation au sujet LGBTQIA+.
Et toi, de ton point de vue en tant que salarié, en quelques mots, comment tu définirais la diversité et l'inclusion?
Alors, comment je définirais en quelques mots? Je dirais que c'est complémentaire et je dirais que l'ensemble est un cercle vertueux. La diversité, si elle est déjà existante, prouve une certaine inclusion et l'inclusion amène la diversité. La diversité amène l'inclusion. Pour moi, c'est vraiment un cercle vertueux quand on a les deux. La diversité, c'est les différences dans les personnes qu'on peut rencontrer. Et l'inclusion, c'est l'acceptation des différences, pour moi. L'ouverture d'esprit, l'acceptation de l'autre, surtout l'inclusion.
Je crois que chez Disney, vous avez une culture d'entreprise très forte.
Extrêmement forte.
tu peux me rappeler la signature de vos mails, ce que vous mettez dedans?
Alors, je ne sais plus la phrase exacte, mais c'est tiré d'une phrase de Walt Disney. Faire rêver, c'est un métier.
C'est beau.
C'est très beau.
Comment tu définirais la culture d'entreprise en général?
Alors, la culture d'entreprise, je dirais que c'est les valeurs. Ça va de pair avec les valeurs. Et c'est vraiment qu'elles soient appliquées au sein de l'entreprise, qu'elles soient comprises, appliquées, respectées. C'est en tout cas chez Disney, un vivre ensemble particulièrement bien.
On va revenir sur les valeurs après.
Oui.
Mais pour finir un peu les questions de définition, comment pour toi la culture d'entreprise peut s'articuler avec la stratégie ou s'articule en général avec la stratégie?
Pour moi, si on définit des valeurs fortes qu'on veut mettre en place, on les inscrit dans l'ADN de notre entreprise, donc que ça devienne la culture d'entreprise, on peut vraiment axer sur là où on veut aller si on veut être une entreprise bienveillante. Si on inscrit cette valeur-là dans nos valeurs, dans notre ADN de l'entreprise, stratégiquement parlant, ça va devenir cette culture d'entreprise. Et derrière, ça va devenir quelque chose d'inné qui transpire de l'entreprise. Mmh. Pour moi, c'est là où, en fait, stratégiquement, il faut placer ses valeurs. Pour moi, il n'y a rien de pire qu'une entreprise qui n'est pas alignée avec ses valeurs, en fait. Enfin, qui prône des valeurs vers lesquelles ils ne sont pas alignés. Et je pense que pour moi, c'est hyper important que les valeurs elle soit alignée avec la stratégie et que ça apporte aussi à la stratégie, puisque si elle est alignée, on peut axer là où on veut aller en termes de stratégie.
on retrouve le cercle vertueux dont tu parlais.
Exactement, je parle beaucoup en cercle vertueux. J'aime beaucoup cercle vertueux, cercle vicieux. Mais en fait, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent comme ça au final, et où on se rend compte que une mauvaise chose en entraîne une autre, et alors qu'une bonne, comme une bonne action souvent entraîne un sourire qui peut réenforcer à faire une autre bonne action, et c'est un cercle vertueux.
Complètement, c'est un peu l'effet papillon aussi.
Exactement.
Ou l'effet domino, au choix. Du coup, on va arriver sur les valeurs de Disney. Et donc, quel mot tu utiliserais pour définir les valeurs de Disney ?
Le premier mot qui me vient à l'esprit quand on parle de Disney, c'est la magie. Forcément, on est biberonné à la magie. Et la magie, elle n'est pas que quand on va sur le parc de Disneyland Paris ou quand on regarde un dessin animé. Pour moi, la magie, elle est aussi au niveau des salariés, des cast members, parce que c'est comme ça qu'on appelle les salariés à Disney. La magie, elle se vit aussi derrière le rideau. Nous, on participe à faire la magie, surtout les cast members qui sont opérationnels, qui sont au plus près des guests. Donc, les personnes qui viennent sur le parc, on a tout un langage Disney. C'est cette magie-là qui, je pense, après, fait découler d'autres valeurs. Pour moi, la bienveillance. On parle souvent de famille chez les cast members. On dit qu'on, ça veut paraître des fois de l'externe. Oh, c'est très beau de dire ça. On est une grande famille. Je le vois beaucoup sur les mèmes sur Instagram ou autre où le manager est dit on est une famille. Mais non, en fait, on n'est pas vraiment. À Disney, ça fonctionne un peu comme ça quand même. On est vraiment une famille. On soutient déjà. On n'a pas de vouvoiement. Et ça crée une proximité avec l'autre. Et quand on crée une proximité avec l'autre dès le départ, ça casse la distance. J'enfonce un peu une porte ouverte, mais dans le sens où ça abat tout de suite un truc qui fait qu'on se sent plus à l'aise avec l'autre. Et c'est pour ça que je pense qu'on peut parler de famille, parce que on se sent beaucoup plus proche des autres. Mmh. On se sent moins jugé et on sent aussi... Alors, est-ce que c'est cette atmosphère magique qui fait ça ? On sent une ouverture d'esprit, un non-jugement qui est juste très agréable à vivre. Et ça vient surtout, je pense, de la diversité. À Disney, où on est, y a plus de 120 nationalités représentées, il y a des personnes queer, il y a des personnes LGBTQ, il y a plus, je pense qu'à Disney, on doit pouvoir représenter quasiment toutes les lettres. Il y a des personnes handicapées, il y a des personnes racisées. Il y a toute cette diversité qui fait que, en fait, accepter l'autre est beaucoup plus facile, étant donné qu'on connaît les différences et on accepte beaucoup plus les différences. Il y a les valeurs qu'on apprend qui sont par le biais des clés. On a 5 clés à Disneyland Paris qui sont sécurité, efficacité, spectacle, courtoisie et inclusion. Okay. Donc la sécurité, c'est qu'on doit toujours réfléchir à la sécurité des cast members comme des personnes qui viennent sur le parc. L'efficacité, on doit toujours chercher à essayer d'être les plus efficaces possible. Le spectacle, pour qu'on fasse vivre la magie, donc il y a toujours une notion de spectacle. La courtoisie, c'est que quand on est à Disneyland Paris, on pénètre dans un monde magique, on pénètre dans un monde un peu à part entière. Et si on amène un peu ce qui n'est pas bien dans la société, le manque de courtoisie, ça nuirait un peu à la magie. Donc, il faut garder cette atmosphère
féerique.
Féerique, exactement. Et la clé inclusion qui est apparue en 2020, donc très récente, qui ancre vraiment dans les valeurs l'inclusion, la volonté d'une diversité et la volonté d'accepter tout le monde. Mais qui était déjà très prégnante avant l'apparition de cette clé-là. C'est juste, ça grave un peu dans le marbre la volonté d'inclure tout le monde.
Je me demandais sur la notion de courtoisie. Comment ça se passe sur le parc lorsque des personnes qui visitent le parc potentiellement ont des comportements sexistes, racistes ou quoi ? Parce que je suppose que ça peut se produire. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui visitent, donc forcément, il y a des personnes qui ne sont pas toujours bienveillantes.
Exactement.
Comment ça se passe, du coup, pour les cast members qui se retrouvent dans ces situations-là, pour gérer ? Est-ce qu'il y a des processus qui sont mis en place pour que les cast members puissent gérer les situations au mieux ? Parce que quand on prend une remarque sexiste, raciste, homophobe, etc., dans la figure, on n'a pas nécessairement envie d'être courtois ou courtoise.
Tout à fait, je comprends. Voilà.
Et du coup, comment ça se passe ? Est-ce qu'il n'y a pas un risque que la courtoisie soit passée en priorité par rapport au bien-être des cast members ?
Alors, ça, malheureusement, je ne pourrais pas te répondre à cette question-là parce que, étant donné que je suis plutôt une cast member de bureau, je ne suis pas confrontée à ces problématiques-là. Je sais qu'on essaie vraiment de trouver un équilibre et que dans ces cas-là, c'est souvent un collègue ou un leader qui va venir intervenir sur ce genre de situation. Mais j'ai pas envie de parler des choses que je connais pas et d'éviter de donner des mauvaises informations par rapport à ça.
Bien sûr, et c'est tout à ton honneur. On va revenir du coup sur les valeurs. Et moi, j'aimerais bien savoir à quel moment tu as su les identifier comme telles, que c'était les valeurs de Disney. Est-ce que ça a été sur l'annonce? Est-ce que c'était explicité dans l'annonce? Est-ce que ça a été lors des entretiens ou au fur et à mesure de ton arrivée et de ton parcours chez Disney?
Alors, nos clés, on les apprend en tradition. Notre premier jour à Disney, c'est ce qu'on appelle la tradition. C'est animé par d'autres cast members et c'est là où on apprend un petit peu plus sur l'histoire de Walt Disney, sur l'histoire de la Walt Disney Company, sur ses valeurs, sur tout ce qui existe au sein de l'entreprise. Donc, notre réseau Pride, le réseau Women, les Disney Volunteers où on fait du bénévolat. On apprend tout ça et on apprend nos clés. Parce que c'est vraiment ancré. Enfin, il y a, je pense, une grande majorité de cast members qui sont capables de citer les cinq clés. Alors avant, il y avait même un ordre. On était même capable de citer l'ordre des clés. Maintenant, il n'y a plus d'ordre. Mais je pense que oui, la majorité des cast members connaissent leurs clés parce que c'est rabâché. C'est là où en fait, ça s'inscrit dans la stratégie. C'est que on veut vraiment promouvoir ces valeurs-là. Ça a été appris là. La bienveillance et la magie. La magie, je pense que j'ai toujours su que Disney était magique à partir du moment où j'ai vu mon premier Disney. Je crois que c'était Le Roi Lion.
Souvent dans notre génération, oui, c'est Le Roi Lion.
Souvent, c'est Le Roi Lion. J'avais même été, si mes souvenirs sont bons, je crois que ma mère m'a dit que j'avais été même le voir au cinéma. J'ai
fait partie, À la sortie.
J'étais pas bien vieille, mais... C'était et donc la magie, je pense que j'ai vu là que Disney était magique, c'était là. La bienveillance, je pense les premières fois où j'ai été sur le parc aussi, où j'ai vu, où en fait j'étais dans ce monde magique et je me suis dit que c'était très très bienveillant et je me suis dit je vais aller passer derrière le rideau quand j'ai postulé pour aller à Disneyland Paris, je vais passer derrière le rideau voir si c'est la même chose, s'il y a pas, si on nous cache pas des choses. Et non, c'est la même chose derrière, c'est magique. C'est bienveillant, c'est extraordinaire.
Oui, donc en fait, ça montre que toute la magie de Disney renforce la marque employeur aussi, oui. Ce qui est une indication que les produits, les services d'une entreprise ont une répercussion aussi sur sa marque employeur.
Exactement. Moi, c'est... je viens d'un... À la base, avant d'aller de rentrer à Disney, je viens d'un grand cabinet d'audit et de conseil à la Défense où à aucun moment... Je réfléchis déjà à faire une transition de genre avant et à aucun moment dans ce cabinet-là. Pourtant, ils font la promotion de ces valeurs-là, d'inclusion, de diversité. J'ai pas senti la bienveillance de mes collègues, j'ai pas senti la bienveillance de mon leadership. À aucun moment, je me suis dit...
Je
me sens en sécurité pour le faire. À Disney, quand je suis arrivé, je crois que ça fait, c'est toujours l'anecdote que je raconte et je suis devenu très ami avec cette personne. Ça faisait 2-3 semaines, on descend à la machine à café et donc on parle de nos week-ends et puis c'est mon collègue me fait « Oh bah avec mon mari, on a fait ça ce week-end. » Surprise de la bonne manière,
oui.
C'est-à-dire que vraiment surprise parce que j'avais pas été habitué à ça avant.
Parce que c'était un non-sujet, en fait.
Parce que c'était un non-sujet, parce que ça n'appelait même pas de quelque chose. Enfin, c'était une information comme une autre. Et en fait, ça a été le déclic. Il y a eu plein de choses, mais ça a été le déclic de me dire, je crois que je suis au bon endroit pour me sentir en sécurité. Et c'est toutes ces choses-là qui m'ont fait pousser mes petites ailes de papillon. J'aime bien prendre cette allégorie-là. On le prend souvent dans le cas de la transidentité où on devient papillon, on est chenille parce qu'on se sent pas à l'aise avec son corps, etc. Il y a souvent le passage de la chrysalide où on commence sa transition et on a besoin d'être dans un endroit sécurisé pour être
cette
chrysalide.
Parce que t'es sans défense.
On est sans défense et on a besoin de se trouver un endroit sécurisé pour faire ça. Et après, on devient le papillon qu'on a toujours rêvé d'être. Et je pense que cette rencontre-là avec ce collègue qui est extraordinaire et qui est très investi au sein du réseau Pride aussi a fait que j'ai pu installer ma chrysalide. C'est à ce moment-là où je pense que ma chrysalide a commencé à s'installer et c'était incroyable. Et même quand je discute encore avec d'autres cast members que je connais pas, il y a même pas d'appréhension à parler de son mari quand on est homosexuel, de sa femme quand on est lesbienne. Il n'y a aucun tabou par rapport à ça. Il n'y a aucune appréhension. Et ça, c'est génial. C'est génial de pouvoir être authentique au travail, de pouvoir rencontrer des gens authentiques aussi, parce que c'est beaucoup plus sympa de discuter avec des gens authentiques. Ça fait encore une fois ce cercle vertueux où on se sent bien, et plus on se sent bien, plus on ose être authentique, et plus on laisse les autres être authentiques aussi.
Et c'est beaucoup moins fatigant aussi.
Et c'est beaucoup moins fatigant, parce que quand on se cache, le placard est fatigant.
Complètement. De dire, attends, faut que je fasse attention à ma formulation, là, faut que ça soit neutre.
Faut qu'on s'invente des vies. Faut que, pour les personnes homosexuelles, comme pour les personnes transgenres, faut qu'on s'invente des vies. Et c'est fatigant de jouer un rôle, pour faire la métaphore du théâtre, d'être sur scène en permanence à jouer un rôle. C'est fatigant, on a besoin d'être en coulisses aussi de temps en temps.
La performance. Du genre et de l'orientation sexuelle.
Exactement.
Ça ne me surprend pas, hélas. Mais c'est intéressant de ce que tu disais, de ça peut être les valeurs, enfin je parle de ton ancienne structure, où ça peut être présenté comme les valeurs, mais dans les faits, tu ne le ressens pas.
Faut que les valeurs qui sont promues par l'entreprise soient comprises, intégrées et acceptées par ses salariés. Les premiers ambassadeurs d'une entreprise, de sa culture d'entreprise et des valeurs, c'est les salariés. Si les salariés adhèrent pas à ces valeurs-là, ils ne vont pas faire en sorte que ça devienne une culture d'entreprise.
Et toute la question de comment on recrute aussi
Comment on recrute, comment on accélère le recrutement. Et l'image que ça renvoie aussi derrière. Parce que moi, je suis allé à Disney en me disant, je pense inconsciemment en me disant, tu vas pouvoir le faire, ta transition, tu vas pouvoir devenir toi-même. C'est là. S'il y a une chance, je pense que c'est là. Vas-y, essaye. Tu vas voir si derrière le rideau, c'est la même chose que sur scène. Et c'était le cas. Et je pense qu'il y a des personnes qui postulent à Disneyland Paris.
Juste pour ça.
Parce qu'on se sent bien, on est authentique et que ça permet d'être trop bien. On n'a pas... Je prends beaucoup le vocabulaire du combat quand on est dans un environnement hostile. À Disneyland Paris, on n'est pas dans un environnement hostile. Dans le reste de la société, les personnes LGBTQIA+, on est quand même dans un environnement hostile. On est obligé. Pourquoi on parle autant de safe place? Parce que dès qu'on sort de ça, on est dans un environnement hostile. Et c'est fatigant de se battre. C'est fatigant de jouer à la comédie. C'est fatigant de se battre. Et à Disney, on parle beaucoup de safe place. Moi, je l'ai ressenti comme ça. Disney, on est vraiment dans une safe place. Et ce qui permet derrière, c'est plus facile d'aller dans les cet environnement hostile le reste du temps.
Ça me parle totalement ce que tu dis, parce que quand je vois mes relations, que ça soit avec des femmes ou avec des hommes, lorsque j'ai eu une relation avec un homme trans, que j'avais trouvé la sécurité que le passing de relation hétéro offrait tout en ayant une relation queer. Et c'est là où je me suis dit, ça a un équilibre, parce que en tant que bi, on est tout le temps en mode, est-ce qu'on est assez queer ou pas? C'est le drame de notre existence. Enfin, on s'entend encore
déjà. Je sais ce que c'est.
Voilà. Et le fait d'être avec un homme trans me protégeait en tant que personne queer, parce que la relation passait pour hétéro, donc on pouvait se tenir la main dans la rue, on pouvait s'embrasser dans la rue sans que je m'inquiète, comme lorsque je suis avec une femme. Lorsque je suis avec une femme, j'ai eu une copine une fois, elle s'était penchée vers moi pour me faire un bisou dans le métro. Mon premier réflexe, c'était en mode « c'est dangereux, ça !» Et après, je me suis dit « non ». On va pas laisser.
On intériorise en plus cette. Des fois, je pense qu'on pourrait plus extérioriser certaines choses, mais en fait, on intériorise cette peur de se dire, mais si on fait ça, on risque de se faire agresser, on risque. Et c'est là où, en fait, c'est là où on se dit, c'est hostile, parce que on a peur d'être nous-mêmes, on a peur de. On fait attention à tout pour éviter de générer des conflits qui sont générés par les autres.
Notre existence n'est pas un conflit en tant que tel.
Notre existence, c'est ça, n'est pas générateur de conflits en tant que tel. C'est plutôt la vie des autres. Mais la société peut être très violente quand même. Très violente, et on peut être très violent avec nous-mêmes à cause de cette société.
Aussi, et le reproduire sur d'autres, etc. On ne va pas se lancer dans la discussion des violences intracommunautaires.
Là, on en a pour la journée à parler de tout ça.
Clairement.
Pour beaucoup de personnes LGBTQIA+, le lieu de travail est le dernier endroit où elles peuvent être elles-mêmes et donc authentiques. Elles sont alors obligées de mentir en permanence ou d'éviter les moments informels avec leurs collègues afin de se protéger. Cela représente 46% des personnes queer, soit entre 1 et 2 millions de personnes en France. ce mensonge quotidien est absolument épuisant. Forcément, quand une partie de son attention est portée sur le choix des mots et des situations, on ne peut pas se détendre. Les entreprises ont un rôle à jouer, qui va de la mise en place de sensibilisation aux politiques internes et au vocabulaire employé. Par exemple, ne plus employer congé paternité, mais faire référence au congé d'accueil de l'enfant. Selon la terminologie légale, cela rappelle aux personnes queer que cette loi les concerne aussi et que l'entreprise a à cœur de le prendre en compte. Dans le deuxième épisode de sa mini-série, Louise explique le stress qu'un coming out au travail peut représenter. Trois éléments à la fin de cet épisode. Tout d'abord, j'espère que tu as passé un bon moment avec nous. Cet épisode a été proposé par Projet Adelphité, agence de conseil et stratégie en diversité, équité et inclusion. Tu peux nous contacter pour conseiller ton entreprise sur ces sujets à contact@projet-adelphité.com. Ensuite, Inclusivement Vôtre vient tous les mardis matins. Tu peux retrouver les précédents épisodes sur toutes les plateformes d'écoute, mais aussi sur le site www.projet-adelphité.com, ainsi que sur la page LinkedIn et Instagram de Projet Adelphité. Enfin, tout est like, partage, commentaire sur toutes les plateformes d'écoute, ainsi que tes 5 étoiles sur Apple Podcasts soutiennent notre travail. À mardi prochain pour un nouvel épisode d'Inclusivement Vôtre.